Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me contactent, qui ont plus d'argent que moi à l'époque d'ailleurs, qui disent, ouais, j'ai 15 000 balles à mettre en startup, comment je fais? Mais je dis, ben, en fait, c'est la finalité, tu vois, d'investir en startup. C'est, est-ce que tu rencontres des entrepreneurs chaque semaine? Non, ben, commence déjà par ça.
Bienvenue dans Finary Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finary, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finary.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce 9e épisode, nous recevons Jérémy Goyot, entrepreneur et business angel. Après 5 ans passés chez Spendesk, il a décidé de se lancer dans l'investissement dans les startups. À ce jour, il compte 19 investissements effectués en moins de 2 ans. Passionné par la tech, il a développé sa thèse, monté son club d'investissement et est en train de monter son propre fonds. Jérémy nous partage aujourd'hui ses conseils pour dénicher la prochaine licorne. Bonne écoute!
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy qui est un business angel. Salut Jérémy.
Salut Mounir, merci pour l'invitation en tout cas. Et utilisateur de Finary.
Et utilisateur de Finary, bah écoute, je pense que tu es un peu l'utilisateur type puisque tu as un portefeuille d'actifs qui est hyper diversifié. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu vas nous parler de la classe d'actifs que tu as le plus traité, les startups. On va parler de ta stratégie, on va parler de ton portefeuille. On va peut-être découvrir quelques-uns de tes secrets, s'il y a des secrets. Tu nous donneras peut-être aussi ton avis sur Finary en tant que boîte ta vision du crowd equity, quelle place ça prend dans ton portefeuille. Avant cela, avant de passer au main event, on va regarder quelques sujets que je vous ai préparés. Donc évidemment, on n'est pas prêt. C'est ça aussi une startup, c'est que c'est encore très manuel. Je n'ai pas encore de grande équipe pour faire ça.
Ou pas la fibre en tout cas.
Alors, c'est évidemment hyper lent. Donc on regardera ça tout à l'heure. Donc on va plutôt parler de toi, Jérémy. Donc Jérémy, juste pour te présenter rapidement, tu as un passé en grosse, donc en développement de start-up, en marketing. Tu as été le 4e employé de Spendesk, qui est une licorne française, qui a été une des dernières d'ailleurs à être annoncée. Ouais. Aujourd'hui, tu as quitté Spendesk, tu as monté plusieurs activités, tu as investi dans énormément de startups et tu t'es très rapidement constitué un portefeuille. Et c'est ça que je trouvais hyper intéressant chez toi. Donc, écoute, je te passe la parole. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton parcours, d'où tu viens, qui tu es et ta vision de l'investissement?
Non, mais écoute, c'est assez bien résumé. Je vais rester aussi concis. Mais j'ai rejoint une startup qui n'avait pas de nom et qui avait une dizaine de bêta-testeurs en 2016. Donc qui s'appelle aujourd'hui Spendesk, qui est la 26e licorne française. Tu l'as vécu, Mounir, les 2 premières années en startup, on fait tout à la fois. Donc on n'a pas vraiment de rôle, on n'a pas vraiment de job title, quoi. On s'assure que la boîte survit et qu'on grossit.
Tu te souviens de ton job title numéro 1, ton premier job?
Moi, je suis arrivé à un stage et c'était SDR. Et j'avais googlé, tu vois, ce que ça voulait dire. Ça voulait dire Sales Development Representative. De toute façon, il y avait ingénieur et SDR dans la boîte à ce moment-là. Il y avait deux job titles, quoi. Et j'ai monté une équipe growth. Donc, on était responsable d'aller chercher les prochains clients de Spendesk. Spendesk, qu'on fait, c'est une solution SaaS. Donc, c'est un logiciel à destination des PME. Et des moyennes entreprises françaises et européennes pour les aider à gérer toutes leurs dépenses, que ça soit les notes de frais, que ça soit les paiements en ligne, que ça soit les paiements fournisseurs. Donc en fait, on est à la fois une fintech et à la fois un logiciel. On a eu une croissance assez rapide et donc en 6 ans, et là je vais parler un peu au passé puisque moi j'ai quitté l'aventure, mais en 6 ans on a onboardé plus de 3000 clients à la fois en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Et les 2 dernières années, du coup, de ma carrière chez Spendesk, je suis parti m'installer à San Francisco, que tu connais bien aussi, Mounir, pour lancer Spendesk aux États-Unis. Donc, j'ai eu cette double casquette de découvrir l'écosystème parisien et de découvrir l'écosystème américain. Voilà, après 6 ans dans une startup de dur labeur, j'ai décidé de partir avant la série C, quoi, entre la B et la série C. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire à ce moment-là, mais j'avais une envie d'apprendre, en fait. Et j'étais persuadé que je monterais une boîte un jour. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être au contact d'entrepreneurs. J'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit, allons investir dans des startups. Et c'est un peu addictif, on va dire, même si on rentrera sur la
C'est un
stratégie.
jeu.
Mais voilà, j'ai fait mon premier investissement en startup en décembre, enfin, décembre 2020, janvier 2021. Et du coup, sur l'année 2021, je m'étais donné un challenge un peu fou, tu vois, d'investir dans une startup par mois pour mettre du
Ouais.
rythme et avoir du dynamique. Et voilà, j'ai réussi, j'en ai fait 19 en 2021. Et là, je prépare du coup le seconde étape, c'est de monter un mini-fonds, même si un fonds est un bien grand mot,
Ouais.
sur un nouveau territoire. Donc moi, je rêve de vivre et m'installer en Afrique. Et donc
OK.
là, on va monter un fonds avec une associée pour investir dans 20-30 startups sur le sol américain cette fois-ci.
OK. Pourquoi l'Afrique?
Oh, c'est la question qui me revient toujours. C'est difficile à expliquer. Je pense qu'on est tous originaires d'Afrique à la base, donc c'est peut-être le retour,
Ouais, c'est vrai,
tu vois,
c'est le
aux
berceau.
sources. Je trouve qu'aussi, c'est un continent où on est hyper proche culturellement,
Ouais.
que ce soit dans la langue parlée, dans les cultures, même dans le fuseau horaire. Et
C'est
c'est un
clair.
continent qui est gigantesque. Tu vois, aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros continent, le deuxième continent le plus peuplé. Et il y a tout à construire d'un point de vue fintech, donc d'un point de vue infrastructure bancaire, d'un point de vue infrastructure internet, d'un point de vue infrastructure logistique. Donc, c'est un peu ce côté de tout construire en vivant dans des paysages qui sont magnifiques.
Trop bien. Donc, tu veux t'installer là-bas aussi.
Ouais, je vais m'installer en Afrique. Donc, je pars avec mon sac à dos avant la fin de l'été, là.
Ok.
Je suis encore en négociation avec madame, mais avant la fin de l'été, on devrait s'installer là-bas.
Ok. Et tu as un pays déjà en tête, un
Non, le but,
premier?
c'est d'être vachement mobile au début.
Ok.
Donc, commencer à Dakar, je l'ai vu dans le chat, et finir, on va dire, à Nairobi, en passant par le Caire et Lagos, qui sont un peu les gros écosystèmes. Il y a une quinzaine de gros pays très acteurs de la tech, et
Ouais.
donc de vraiment tous les faire de
Génial.
manière.
Donc, te faire un réseau, de rencontrer les gens.
Exactement. D'aller rencontrer des gens, c'est ça l'intérêt,
C'est
quoi.
la clé.
Et c'est
C'est la
aussi ça
clé.
la clé de pourquoi j'ai commencé à investir dans les startups, c'est que on rencontre des gens, et on vit par procuration des histoires. Et c'était les
Ouais.
motivations, tu vois. C'est la chance. Moi, j'ai jamais trop acheté d'actions en bourse, mais là, tu achètes une action et tu rencontres le fondateur de la société et tu as vraiment des informations pendant 1 heure, 2 heures avec eux. Donc, c'était vraiment ce côté-là que je vais cultiver et que je vais développer, mais de rencontrer des gens et de vivre des histoires par procuration, quoi.
Trop bien. D'ailleurs, tu as parlé d'un sujet qui est intéressant, c'est les autres classes d'actifs. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta strate globale, peut-être, ta strate globale de patrimoine? Comment ça
Ouais,
s'articule?
tu vois, moi, j'ai commencé un stage, je pense, avec moins 40 000 euros sur mon compte bancaire en 2016. J'ai réussi à inverser la tendance. Je sais que je suis un peu chanceux parce que j'ai été les premiers employés d'une société qui vaut plus d'un milliard d'euros aujourd'hui. Donc, a fortiori, il y a eu une redistribution des richesses. Donc, j'avais des BSPCE chez Spanes que j'ai toujours. Je suis toujours actionnaire de Spanes. Et la majorité de mes revenus aujourd'hui viennent à la fois de mon salaire, qui était conséquent sur les 2 dernières années, surtout en vivant et en travaillant à San Francisco, et derrière des actions de Spendesk, certaines que j'ai vendues. Donc c'est, j'avais pas non plus énormément d'argent, et on rentrera dans le détail. Aujourd'hui, j'ai acheté un peu de crypto, mais j'ai pas toujours comme c'était à la hausse, quoi. Donc j'ai un peu de crypto.
C'est toi le gars qui a acheté les quand c'était tout en
Non,
haut là, le
la
top.
seule bonne chose que j'ai faite, c'est en 2017, je crois, j'ai offert un Ether à mon frère pour son anniversaire, quoi, une
Ah,
centaine
sympa.
d'euros. C'est la
Ouais,
seule
c'était
chose qui est
l'année
en
dernière.
positif, tu vois, sur le compte.
Beau
Mais non,
cadeau.
j'essaye quand même aujourd'hui, chaque trimestre ou chaque année, de mettre entre 10 et 20%, tu vois, de mes incomes, de mes revenus, dans la crypto. Rien d'exotique, Ether et Bitcoin. Ça, on va dire, c'est plutôt minoritaire et c'est plutôt pour participer aux rentrées, tu vois, dans le Web3 et comprendre les mécanismes et surtout avoir un pied de l'autre côté. J'ai fait un peu d'immobilier, donc j'ai acheté mon appartement à Paris, ma résidence principale. J'ai acheté un deuxième appartement en Colombie, plutôt sur du locatif. Et je m'intéresse de plus en plus à l'immobilier. J'ai fait un peu d'œuvres d'art, tu vois. C'est pas grand, mais ça coûte un peu cher. Donc j'ai fait un peu ça plutôt sur du plaisir et sur du long terme. Et après j'ai fait honnêtement 80% si on enlève le crédit immo parce qu'il y a du leverage, quoi. Mais mon cash est parti en startup, quoi. J'ai mis énormément dans 20 startups, tu vois, sur un ticket moyen de 6-7 000 euros. Ça va vite.
Ça va très vite. Et je pense que t'es vraiment, enfin, c'est très rare en fait d'avoir un profil comme toi.
C'est très rare de mettre autant. Moi, j'ai signé des chèques de 2000 euros, tu vois. Ce qui était impossible, je pense, dans 2-3 ans. Et ce qui paraît impossible pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est pour ça que le mot, on est en train de se battre pour changer ce côté business angel. On s'appelle plutôt des smart angels. Parce qu'en fait, on apporte autant en cash qu'en matière grise. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ces opportunités d'investir. Ils s'en foutent de mes 2000 euros, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est ils veulent me rajouter dans l'aventure et ils veulent m'utiliser sur certains sujets. Et donc, j'ai un peu surfé sur cette tendance des smart angels qui s'est vachement développée aux États-Unis, où les entreprises se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas trop de difficultés, certaines entreprises, à lever des fonds. Par contre, ils avaient des difficultés à s'entourer de personnes. Et donc, ils se sont dit, on va prendre un gros VC qui va être un beau logo, qui va faire 90% de la levée de fonds. Et après, on va s'entourer de business angels stratégiques, et on le voit de plus en plus dans l'écosystème français, qui vont mettre entre 5, 10, 50 000 euros, c'est à peu près ça le ticket moyen, et qui vont pouvoir nous aider sur des sujets hyper spécifiques. Donc
Trop
voilà,
bien.
ça a été un peu ma thèse et mes opportunités là-dessus.
Là, je pense que c'est un premier insight hyper intéressant que vous donne Jérémy. En gros, c'est que ce n'est pas le chèque qui fait que Jérémy peut accéder au deal. C'est qu'il a une expertise, tu as une marque aussi, tu as une marque perso, mais
Qu'on
tu as
a travaillé.
aussi la marque Spendesk. Et donc, quelque part, tu vas dire au gars, et d'ailleurs, nous, on a fait un finaré à des investisseurs qui sont exactement comme toi. Ils m'ont dit littéralement ce que tu viens de me dire. Ils m'ont dit, voilà, moi, je te donne 5 000 euros. C'était avant, hein, c'était pas la levée qu'on va faire là. Mais moi, je suis fondateur comme toi, et peut-être que je suis un peu plus avancé. J'ai pas beaucoup d'argent maintenant, mais je veux t'aider. Enfin, je vois ce que tu vis et j'ai telle expertise. Et ça, c'est pas l'argent qui achète cette expertise. Et ça peut être rien du tout. Hein. Ça peut être un coup de fil à un moment. Ça peut être on
Lire
débloque un
des
deal.
emails, juste des échanges par email, parfois,
Ouais,
tu
juste
vois.
des échanges par email. Passe 2 heures avec mon équipe sur la partie analytics. C'est vraiment, ça peut être tout petit. Mais ça a beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un insight intéressant pour vous. On en parlera tout à l'heure. C'est pour rentrer dans les bons deals. C'est pas la taille. Enfin, à part si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas la taille du chèque qui fera la diff.
Même.
Donc il faut réfléchir à ses forces en fait. Comment vous positionnez par rapport au deal? Est-ce qu'on regarderait pas ton portefeuille pour comprendre un peu ta stratégie et la façon dont tu réfléchis au deal? Comment tu analyses les deals, etc.
Ouais, t'as dit quelque chose en introduction qui était hyper intéressant. C'est je partais de zéro. Tu vois, je travaillais en startup, on avait levé beaucoup d'argent chez Spendesk, mais je connaissais pas ce milieu-là. Donc, j'ai eu vraiment une envie d'apprendre le plus vite possible, tu vois, sur l'angel investissement. Et je me suis dit, plus tu fais de transactions, plus tu vas apprendre.
C'est
Donc,
clair.
j'ai eu des histoires assez folles, tu vois, pour investir dans une boîte allemande, il faut aller dans l'ambassade, aller voir un notaire allemand, en fait. Donc, c'est l'ambassade d'Allemagne. Enfin, il y a pas mal d'histoires assez hallucinantes, tu vois, quand tu investis sur des différentes localisations ou autres. Et je me suis aussi dit, ça sert à rien de mettre tous les œufs dans le même panier. Même si mes premiers investissements sont aujourd'hui ceux qui valent le plus, on va dire, en termes de cotation. Mais ça a été de se dire, faut que je fasse le plus de deals possible, même si c'est 2000 euros, tu vois, qui est mon plus petit investissement. Il faut que je fasse le plus de deals possible pour apprendre. Donc, à la base, j'étais parti sur 12. Et en fait, la chance, c'est que ça fait un peu un effet boule de neige. C'est que, par exemple, mon premier investissement m'en a rapporté deux autres. Et qu'en fait, plus tu fais d'investissements, plus tu as d'opportunités. Et donc, à la fin, tu te retrouves face à des opportunités où c'est difficile de dire non. Donc, il a fallu un peu gratter. On n'achètera pas une belle montre cette année et pas une belle voiture. Donc, voilà, j'ai un peu plus mis dans les startups que ce que j'avais prévu. Mais parce que ça a été un boule de neige. Donc, ravi, tu vois,
Ouais,
de
je vais lui montrer.
partager sur Finari les différentes valeurs. Ce qui est intéressant, c'est, et je pense que tu me poseras la question, mais c'est aussi vachement difficile à estimer ce que vaut un portefeuille en startup, en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans une bulle, c'est-à-dire que les entreprises sont plus valorisées que ce qu'elles devraient l'être. Ça ne veut pas dire qu'elles valent zéro, mais ça veut dire juste qu'à ce jour, elles sont plus évaluées que peut-être dans 5 ans. Donc, c'est toujours vachement difficile d'évaluer son portefeuille. Mais il y a pas mal de, tu vois, sur les 19 investissements, il y a pas mal de learning assez intéressant, quoi.
Alors écoute, évidemment, deuxième problème technique, puisque je n'arrive pas à partager l'écran.
Ça y était là.
Tu vois ou pas?
Non, c'est apparu, c'est disparu.
Ah ok. Bon, alors, des fois, il y a l'équipe Livestorm, super boîte, hein, je les salue, qui participe au call. Donc s'ils peuvent débugger ça en live, ce serait génial. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Alors, hop, je pense que ça va être bon.
Mais tu vois, pour commencer, donc sur les 19
Vas-y.
angel investissements, Je dois avoir 60% en France, 40% à l'étranger. C'est un peu le premier, la première chose actionnable.
On le voit là à l'écran normalement.
Ouais.
Alors
Donc là,
attends,
tu avais
on va regarder
différentes
les
boîtes.
stats. On va regarder on va regarder par pays déjà. Donc ce que tu disais là.
Ouais.
Donc 60% pile poil
Putain,
France.
j'étais fort, hein.
Ouais. 60% France, vas-y, c'est les autres, du coup, c'est il y a une volonté d'aller voir d'autres pays, c'est comment ça s'est fait?
Non, en fait, comment ça s'est fait Royaume-Uni? J'en ai deux de mémoire. Causal, qui est mon deuxième investissement, en
Ouais,
fait.
qu'on a vu là-haut, ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, comme tu disais, pour Spendesk, en fait.
Ok,
Donc, ils
ouais.
m'ont contacté pour me poser des questions. Personne ne m'a dit, est-ce que tu veux investir dans ma boîte? Ou c'est
Bien
pas moi qui
sûr.
contactais les gens en leur disant, est-ce que je peux investir dans ta boîte? C'est en fait, c'était des gens que j'avais rencontrés, donc Taimour, tu vois, chez Causal, fin d'année. Et en fait, j'avais été assez utile, je pense, dans mes calls avec lui et j'avais gardé une bonne relation. Et un jour, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de mettre dans la boîte? Et en fait, une fois que j'avais rentré dans une boîte, son meilleur ami était aussi une très belle boîte qui est Atio, qui est un peu plus bas dans la liste. Et
Là.
donc, voilà pourquoi je suis rentré sur le marché UK avec un call de un peu paid forward. Tu vois, j'ai donné 30 minutes de mon temps à un entrepreneur et ça m'a fait deux deals. États-Unis, c'est assez intéressant aussi. Bon, il y a beaucoup de boîtes qui ont
8%.
fait YC, donc elles sont
Go YC,
incorporées.
café, boîte YC, ça, on les
Ouais,
connaît.
il y a Café,
Loom.
il y en a d'autres. Il y a Folk aussi qui est. Enfin, après, t'as où est-ce qu'est le headquarter
Crew
et où est-ce
ou
qu'est.
Amine aussi est un entrepreneur YC. Donc, je le salue aussi.
Et
Palenka
Alta,
aussi,
c'était un
c'est une
peu
boîte
plus vieux,
YC.
tu vois, là-dessus. Mais ce qui est intéressant sur un deuxième investissement, si on prend iTouch, qui est aujourd'hui la boîte la plus valorisée, c'est eux qui l'ont annoncé dans TechCrunch. Donc, ça vaut plus de 500 millions d'euros
Waouh.
aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'ils font,
iTouch.
iTouch?
Ils font un reverse ETL, donc ils permettent de connecter la donnée entre les bases de données et les outils
Ouais, énorme
business.
comme business, ça. Hein.
Donc, prendre ta base de données et pousser l'information dans ton HubSpot ou dans ton Salesforce. C'est les anciens premiers employés de Segment, qui est une
Ok,
boîte qui a été rachetée à plusieurs milliards
la belle
d'euros.
boîte.
Et en fait, on est le premier utilisateur. En tant que Spendesk, on a été les premiers à mettre en place la solution.
Ok.
Et donc, on était l'utilisateur numéro 2, je crois, tu vois, sur l'URL.
Littéralement.
Et on les a défoncés, mais pendant 6 mois, quoi. Et là, je dois vraiment remercier Aurélien, qui était le lead dev, tu vois, chez Spendesk, qui a mis en place cette solution. On hésitait entre deux solutions, il avait choisi iTouch. Et en fait, ça a mis presque un an, entre quand il était en YC mi-2020, tu vois, jusqu'à mi-2021. Et on était vraiment allé voir chaque semaine pour leur dire, bah, il manque cette feature, il faut développer ça. Et un jour, ils nous ont dit, mais les gars, vous voulez pas mettre un ticket? Et voilà, c'était une boîte qui était déjà assez bien valorisée à l'époque. Mais ils sont aux États-Unis, ils ont des très beaux clients, ils ont fait des gros recrutements. Et donc
Génial.
aujourd'hui, ils sont valorisés plus de 500 millions à date. C'est la
Et
plus grosse valorisation du portefeuille.
là, on voit que tu as des pays peut-être plus, enfin, un peu plus exotiques quand on pense aux
Ouais.
startups, Mexique et Brésil, tu peux nous en parler?
Ouais, donc moi, j'ai toujours été attiré par les pays émergents, tu vois. Et quand j'ai quitté San Francisco et Spendesk, j'ai voulu partir à la rencontre, tu vois, de nouveaux écosystèmes et de nouveaux pays. Bon, Mexique, c'est parce que j'étais prisonnier au Mexique par Donald Trump. Tu vois, je n'avais pas le droit d'aller aux États-Unis, donc je devais vivre au Mexique. Et j'ai juste beaucoup
Il y a
networké
pire
avec
quand même
des
que devoir
entrepreneurs
vivre.
de génie. Et donc, j'ai fait deux deals, dont un de Y Combinator, Palenka,
Alenka.
qui est lancé par un Français au Mexique.
Effectivement. Je l'ai même interviewé pour avant YC, pour la petite histoire.
Ouais,
Donc,
ils sont très forts
ils sont
ce qu'ils
très forts,
font
ouais.
et c'est un business assez intéressant, assez technique. Donc, tu vois, si on prend un peu de hauteur sur mon portefeuille,
Ouais.
j'investis dans des boîtes qui sont très tech,
Ouais.
c'est-à-dire que la personne la plus importante doit être le CTO, tu vois, de la
Ok.
majorité des boîtes.
Donc c'est du B2B plutôt.
B2B, beaucoup. Ouais, B2B ou sur du fintech, tu vois, je serais prêt à faire du B2C, mais encore pour deux choses. C'est pas que j'aime pas le B2C, mais c'est que mon expertise est moins forte. Et
Bien
comme je
sûr,
t'ai
ouais.
expliqué que les gens venaient me voir pour mon expertise, j'adorerais faire une grosse boîte de B2C,
Mais t'as
mais je
moins de
suis
contacts
personne pour eux, tu
naturels.
vois. Je
T'as
suis
pas les.
personne pour eux. Donc, c'est aussi plus facile pour moi de rentrer dans des deals fintech et dans des deals B2B. Et sur le Brésil, c'était vraiment un challenge. Je me suis dit, je pars un mois au Brésil, il faut que je fasse un investissement. Et c'est Mgrana, qui est une boîte
Là.
exceptionnelle, tu vois, sur une grosse, grosse fintech et de lead scoring. C'est assez fort ce qu'ils font. Je ne sais pas si je rentre dans le détail. Mais voilà, c'est ma première boîte brésilienne. Et c'est ça qui m'a permis de valider, en fait, que j'étais capable de le faire dans des pays où personne ne me connaissait, parce que tu vois, dans le sentier, je pense que les gens peuvent peut-être me connaître, ou ont peut-être vu un de mes posts LinkedIn, ou ont peut-être vu le logo Spendesk un jour ou l'autre. Mais quand tu débarques à Sao Paulo, Personne ne te connaît, tu vois. Personne ne te connaît, tu ne parles pas la langue. Et donc, ça a été mon challenge personnel, tu vois, de réussir à faire des investissements dans des pays émergents. Et ça a permis de me faire mûrir, tu vois, cette idée de le faire sur un nouveau continent comme l'Afrique et avec un peu plus de moyens, quoi.
Trop bien. Attends, je vais regarder parce qu'on a plein de filtres. Bon, c'est 100% en equity. D'ailleurs, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est que du seed, a priori. Ou peut-être
c'est
du pré-seed.
Du pré-seed et t'as un peu de safe. Je pense que je l'ai mal rempli parce que.
Ouais, non, parce que ça peut être un safe sur un seed généralement. Donc. Ouais. C'est du early stage en gros. Donc t'es là au début de l'aventure.
Ouais, au début. Moi, j'essaye de rentrer. Mon plus gros, la boîte était déjà valorisée à 30 millions, tu vois, okay. Sur un seed. Mais sinon, la majorité du temps, c'est des boîtes qui sont valorisées aux entre 3 et 15 millions.
Ok.
Post-Covid. Parce que les valorisations, c'est tout ce combien elles ont évolué post-Covid.
Elles ont pas mal évolué. Elles évoluent maintenant un peu dans l'autre sens. Mais OK, donc pour résumer, tu es plutôt B2B. Tu essayes d'aller là où tu as en fait, un avantage.
Où est mon expertise et où est mon avantage et où est ma brand, quoi.
Et par contre, tu n'es pas forcément… Tu n'as pas une thèse hyper fermée, genre je fais que la France, je fais que tel truc. Tu es plutôt opportuniste et tu es prêt à aller aussi dans d'autres marchés comme le Mexique, comme le Brésil.
Ouais, en fait, mais ma thèse, elle est plutôt… Bon, j'avais des thèses, tu vois, géographiques et des types de business, mais c'était vraiment le type d'entrepreneur que je cherchais, en fait. Je voulais être dans des business où j'allais apprendre quelque chose, donc de manière un peu égoïste, qui allait me servir sur ma prochaine boîte, et d'entrepreneurs où j'avais des choses à apprendre. Je pense qu'on a à apprendre à beaucoup d'entrepreneurs, ça rentrait dans le débat, mais il y a des gens qui ont un calme, qui ont une expertise, qui ont une vision… Où en fait, en 30 minutes de conversation, tu sais que presque tu rêverais de travailler pour eux, quoi. Et c'était un peu de mes critères, c'était de se dire, mais putain, est-ce que je me verrais être employé de cette boîte? Et donc, ça a été ça, ma thèse. Et après, là, tu vois, il y a au cœur de l'écran le magnifique logo jaune. Il y a aussi la mafia Spendesk. Donc aujourd'hui, on a la chance, tu vois, d'avoir des boîtes qui lancent, des anciennes Spendesk qui lancent des boîtes et des très belles boîtes. Et donc, de facto, fait partie de ce network.
Il y a d'autres boîtes,
un peu de cold, un peu de networking et après de mon network personnel.
Ok. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu n'as pas du tout parlé d'analyse, d'espèce de modèle, de décision, etc. C'est quand même beaucoup au feeling, j'ai l'impression.
C'est beaucoup au feeling. Tu sais combien tu mets d'argent. Cet argent, tu es prêt à le perdre. Ça, c'est ma philosophie.
C'est important, ça.
Donc, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Parce que, un, tu ne défiscalises pas quand tu investis en startup. Parce que comme on l'a vu, très peu de boîtes sont françaises sur les PEA, je ne rentrerai pas, peut-être ça sera dans les questions, mais tu ne le fais pas pour défiscaliser, c'est une connerie si vous le faites pour défiscaliser d'investir dans les startups. Deux, tu as un risque énorme, tu as plus de chances de le mettre sur le rouge à la roulette que de gagner de l'argent que de le mettre sur une startup, peu importe le background, peu importe les fondateurs, peu importe l'industrie, ça reste un jeu, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on ne peut pas savoir si ça sera une licorne, si ça sera une boîte rentable, si ça sera une boîte cotée. Et le deuxième, c'est que je m'étais plutôt dérisqué sur la somme que j'étais prêt à mettre et le nombre de deals que je faisais.
Okay.
Et après, ce qui était aussi intéressant, c'est que j'avais déjà vu beaucoup de startups. Et je pense qu'un des risques, en fait, c'est des premières startups qu'on commence à voir, qu'on commence à être utilisateur, c'est investir. J'avais passé des entretiens d'embauche, on avait beaucoup de clients startups chez Spendesk. Tu vois, je baignais déjà dedans, en fait, tu vois, Mounir. Donc, je savais me faire une idée si oui ou non, cette startup m'intéressait, avait des choses qui me faisaient peur ou avait des choses qui m'intéressaient. Mais il faut se garder en tête que c'est des boîtes qui sont au stade de pré-seed ou de seed. Ils sont 3-4 personnes, allez, peut-être 10 personnes. Ils ont 20-30 clients. Ils n'ont aucune idée de comment vont se passer les deux prochaines années. Et c'est le cas. Moi, j'ai été à ce stade-là, tu l'es à ce stade-là. On ne peut pas demander une analyse financière à une startup qui vient de se créer ou le fondateur est convaincu du problème, mais ne sait absolument pas le potentiel. C'est un sport à risque parce qu'il faut vachement évaluer sur des soft skills. Il faut vachement avoir un good feeling et se faire confiance et aller chercher plutôt des choses qui font peur, tu vois, plutôt qu'aller chercher des choses qui rassurent. Moi, c'est un peu ma stratégie, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il y a des dangers dans cette boîte ou est-ce qu'au final, ça peut y aller? Et après, il faut aller sur des boîtes qu'on comprend. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, des business models, moi, j'ai fait beaucoup de fintech parce que c'est quelque chose que je comprends, c'est des produits que j'achète, c'est des produits que j'ai implémentés. Aller sur des produits qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas le besoin ou qu'on ne comprend pas le marché, c'est difficile.
Ok, ça marche. D'ailleurs, on voit que ton portefeuille est quand même… Enfin, tu parlais tout à l'heure du sizing de tes positions, c'est quand même relativement équilibré. On voit que Swan, qu'on salue aussi, très belle
boîte. C'est mon premier investissement.
Très bon premier investissement, il y a pire.
Ouais, mais après, tu te dis, ça part vite, tu vois. C'est là où tu te dis, il va falloir poser une thèse parce que mon premier investissement, c'est parti vite.
C'est parti vite. Et par contre, tu vois que tu as bien réparti. Et donc, ça aussi, on voit que tu as fait un travail de sizing. Et pour info, on dit généralement qu'il faut 30 boîtes pour avoir un portefeuille bien équilibré. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Surtout c'est si on met des tickets même de 5 ou 10 000 euros.
Ce qui est plus impressionnant à mon dire, c'est le nombre de boîtes qu'il faut voir pour réussir à faire 30 investissements.
Donc, combien tu en as vu là pour ce portefeuille-là, pour construire ce portefeuille?
5 par semaine, pour un deal par mois, tu vois.
Ok. Ah ouais, donc tu dis non à. Donc tu dis oui à 5% des boîtes, c'est ça?
Bah, t'as aussi de manière hyper modeste, mais t'as des gens qui te disent non. T'as aussi des gens qui se disent non.
T'en as d'ailleurs qui t'ont dit non ou t'es.
Ouais, il y en a 3. Il y en a 3 et certaines qui sont assez belles, tu vois.
J'ai coupé le partage, je te revois.
Il y a Sunday. Il y a Sunday App qui m'ont interviewé pour être le premier employé de la boîte. Et voilà, moi, j'avais déjà été premier employé d'une licorne, ça ne m'intéressait pas. J'avais proposé d'investir et on m'a dit non gentiment, quoi. On m'a dit non d'un join jump qu'a levé avec Index après, ouais. Alors que je les ai aidés à recruter leur head of growth. Donc, tu vois, j'avais tout fait pour rentrer dans le deal et je ne l'ai pas eu. Et j'ai dit non on m'a dit non à Union 54. Ouais. Qui est une boîte qu'elle va avec Tiger en Afrique, qui aurait été peut-être mon investissement coup de cœur, tu vois, une fintech sur le continent africain, où j'ai dû envoyer 150 messages sur WhatsApp avec le CEO. Il a fini par on a fini par échanger et tout ça. Il m'a dit, je t'envoie les papiers. Et un jour, je vois dans TechCrunch qu'ils ont levé avec Tiger, Global Capital, et que j'étais pas dedans, quoi. J'ai jamais reçu les papiers, quoi. Donc, c'est les 3 boîtes où j'aurais adoré investir qui m'ont dit non. Pour aussi minimiser qu'on n'ait pas une position de force en tant que business angel. Au contraire, on doit se battre pour rentrer sur les deals, quoi.
Exactement. Il faut vraiment se poser la question. Et d'ailleurs, c'est aussi un point pour vous. Certains vont être futurs actionnaires de Finari. C'est comment on peut aider la boîte? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la table? Toi, Jérémy, t'arrives, tu peux expliquer comment faire croître un business de zéro à
J'ai même fait plus que ça, tu vois. J'ai fait une note Notion, clairement, que j'envoie aux boîtes ou que je leur explique en mode bullet point de manière hyper concrète. C'est de leur dire que je vais analyser 5-6 de leurs démonstrations clients et je vais leur donner mes feedbacks. Je peux participer à des calls clients. Je peux faire 3-5 intros.
Tout ça gratuitement, évidemment.
Ouais, tout ça, tu vois. Et j'ai tout listé, en fait, les scopes, à la fois sur la partie go-to-market, sales, marketing, à la fois sur la partie recrutement, à la fois sur la partie product, sur certains produits où j'ai une expertise, et à la fois sur les autres sujets sur lesquels j'ai déjà aidé des boîtes. Tu vois. Et en fait, j'ai vraiment mis des bullet points de manière hyper simple, hein, c'est rien de travaillé, mais du coup, ça permet au fondateur de se projeter et lui dire, en fait, tu peux m'utiliser. Si tu as un entretien avec des sales, je peux faire le screening ou je peux faire le closing ou je peux faire la case study. Si tu as besoin de contact en France, je peux te closer 5-10 clients pour toi ou t'aider avec tes sales en France. Tu vois, j'ai vraiment essayé de templétiser pour leur dire, ok, je ramène mon petit chèque, mais j'ai beaucoup à t'offrir, quoi. Et c'est ça qu'ils cherchent, en fait, parce que souvent, ils ne savent pas comment t'utiliser, tu vois, les gens. Et bien, de prémâcher le travail pour des fondateurs et de leur dire, voilà mon expertise, voilà sur quoi je peux t'aider, voilà sur quoi je peux le faire, ça te permet d'avoir des très bonnes discussions et surtout d'avoir une très bonne relation avec les boîtes pour un peu plus dans la longueur que juste signer un chèque et devenir un peu passif, quoi.
Top. Et quelqu'un qui commence aujourd'hui en startup, qui n'a pas forcément un réseau hyper profond dans la tech, tu lui conseilles quoi? Comment il se lance?
Je pense qu'il faut déjà faire un réseau, tu vois. Moi, en 2016, j'aurais pas pu faire le portefeuille que j'ai là, tu vois. Donc, je dirais pas qu'il faut être patient, tu vois, mais il y a des étapes à atteindre.
Je veux dire, je pense que il faut être patient.
Il faut être patient. Il y a surtout des étapes à atteindre. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me contactent, qui ont plus d'argent que moi à l'époque, d'ailleurs, qui disent, ouais, j'ai 15 000 balles à mettre en startup. Comment je fais? Mais je dis, en fait, c'est la finalité, tu vois, d'investir en startup. C'est est-ce que tu rencontres des entrepreneurs chaque semaine? Non. Commence déjà par ça. Commence par rencontrer des entrepreneurs, commence par faire là-dessus. Et après, j'ai aussi, pour disclaimer, c'est mon meilleur investissement à date a été les BSPCE Spendesk, quoi. Donc, ça a été d'être employé de startup.
Investi 6 ans de ta vie là-dedans.
J'ai donné 6 ans de ma vie. J'ai eu la chance que ça paye énormément à la fin. Mais voilà, c'était aussi ça. Et de leur dire, en fait, regarde dans quel setup tu es en ce moment-là et quel est le plus gros leverage pour toi. Aujourd'hui, mettre 5 000 euros dans une startup va te rapporter… meilleur case scénario, peut-être 25 000 euros, tu vois, net d'impôts. Donc, il y a ces côtés-là aussi de se dire, mais analyse où t'es, quelles sont les étapes à atteindre, choisis tes combats et vas-y à 200%, quoi.
Excellent. C'est hyper intéressant et je pense que effectivement, le gain financier, il est réel. Tu peux faire un très gros gain.
J'en suis pas là encore, mais
voilà, exactement. J'espère. Et d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un point, je pense, qui intéresse beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu essayes de vendre des participations? C'est quoi ta strat sur le long terme?
Moi, je suis un peu un gambler, tu vois. Donc, mes actions Spendesk, j'ai rien vendu jusqu'au milliard, tu vois, et on aura douté pas mal de fois, tu vois. Et je pense que c'est un peu pareil dans des boîtes. Je considère que si je fais pas un fois 10 sur mes positions, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que le risque que j'aurai, c'est de faire, au lieu de, tu vois, c'est de vendre à fois 5 et, au lieu de faire fois 10. Donc, moi, j'ai fait le choix de pas vendre avant les séries B. Après, je suis celui qui dérange dans une cap table. Je pense que toi, en tant que fondateur, tu auras plus d'insight que ça. Mais en fait, on fait partie de ces petits gens qui ont une petite ligne sur la table table, donc sur la ligne de la société. Donc, un jour ou l'autre, on va nous demander de sortir. Bon, on gagnera un beau chèque à ce moment-là, mais je suis conscient que ça sera impossible pour moi de rester jusqu'à l'IPO de Swan. Donc, j'en suis conscient. Par contre, je n'ai pas vendu mes positions. Un, j'ai eu que deux opportunités sur mes 19 investissements de vendre mes positions.
C'est dans quel cadre? C'est ouais. Quelqu'un t'appelle? Enfin, comment ça se passe?
En fait, il y avait une augmentation de capital. Ouais. Donc, la boîte avait levé des nouveaux fonds et les investisseurs étaient intéressés. C'est une question de dilution et de valorisation pour acheter des parts existantes.
Pour avoir encore plus.
Pour avoir encore plus.
Et pour pas que les fondateurs,
que le fondateur se diluent. C'est une part de gâteau, quoi. Donc, ils ont dit où est-ce qu'on va manger? Les employés pas trop, le fondateur pas trop. Ben là, il y a des petits smart angels là, qui pèsent rien. Allons leur piquer leur part. Quoi. Enfin, te racheter tes parts. Donc, on m'a proposé. C'était quand même quelque chose qui était assez intéressant parce que avant imposition, c'était quand même… J'avais acheté des actions qui étaient à 7 euros l'action et on me proposait de les racheter à 24 euros, tu vois, okay. en quelques mois. Donc, c'était quand même quelque chose qui était intéressant, mais pas assez significatif et concernant la boîte que c'était pour le vendre. Et comme je te disais, comme c'est vraiment une vision de « j'ai mis de l'argent » pour vivre une expérience, déjà, pour me faire un réseau, pour apprendre. Et cet argent, de toute façon, il est perdu ou alors il me paiera un appartement, tu vois. Ben, j'ai aussi cette vision vachement long-termiste. Et je pense que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs de Finari ont une vision très short-termiste de l'investissement. La crypto nous a trop appris à gagner des sommes au mois ou autre. Mais quand on commence à aller sur des gros projets ou autre, on se rend compte que c'est hyper long. Tu vois, faire une licorne, c'est 7-8 ans. Monter un projet immobilier, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, en fait, j'ai peut-être aussi cette maturité-là de me dire, en fait, j'ai mis cet argent, ça paiera peut-être en 2025 et je recevrai un message, je serai hyper heureux. Mais en attendant, je vois plutôt le bénéfice de vivre des expériences par procuration.
Trop bien. Trop bien. Je pense que c'est hyper sain d'avoir cette mentalité-là. Et d'ailleurs, j'ai vu que Warren Buffett avait des actions Coca dans son fonds, donc dans Berkshire Hathaway, il y avait des actions Coca qu'il avait achetées il y a 60 ans. Et donc, le gars, il détient des actes et il disait « Pourquoi je vendrais quelque chose qui est la meilleure boîte dans son secteur ?» Bah, en fait, je ne vends pas. Ouais. Et d'ailleurs, même ça se trouve que Swan va aller à l'IPO, ce que je leur souhaite. Pourquoi tu vendrais? En fait, les gens qui avaient du Airbnb jusqu'à l'IPO, bah, peut-être qu'ils ont gardé parce qu'ils croient tellement au projet, ils croient tellement à la vision. Mais c'est vrai que la patience, c'est une clé. Et tous les bons investisseurs en startup sont des gens qui sont hyper patients. C'est un peu des diamond hands pour ceux qui font de la crypto. Ils gardent leur position, ils ne vendent jamais en fait. Et c'est même l'inverse. Les gros business angels remettent au pot dès qu'ils peuvent. Honnêtement, c'est très dur hein, parce qu'il faut mettre des sommes énormes au bout d'un moment.
Moi, j'ai mal calculé, tu vois, Mounir, ce serait peut-être un apprentissage. C'est que j'ai dépensé trop d'argent au premier tour, donc dans les seeds. Et aujourd'hui, je n'ai pas les poches assez profondes pour suivre mes positions. Donc, j'ai beaucoup, je pense que j'ai la moitié de mon portefeuille qui a relevé des séries A. Malheureusement, je n'ai pas remis dans les séries A. Donc voilà, ça serait un apprentissage. Et des investisseurs plus expérimentés que moi m'ont dit que j'avais fait une énorme connerie et que j'aurais perdu un peu d'argent. Mais voilà, ça a été ma stratégie que j'avais pas anticipée. Il vaut mieux en fait suivre une boîte qui a une grosse traction à chaque tour, en fait, essayer de remettre. Parce que comme vous dites, si c'est Coca-Cola ou si c'est une boîte qui va continuer à lever, vous ferez chaque fois vos multiples. Et moi, j'avais eu ce peur de me dire, je les ai eu à 7 euros, pourquoi en racheter à 24, tu vois? Un peu ce côté de débutant, quoi. Et en fait, non, parce que le 24, demain, sera un 48. Et donc, on a une opportunité d'acheter à 24 qui est par rapport aux autres qui achètent à 48. Donc voilà, je me suis un peu raté sur réinvestir sur les tours d'après. Ce que je vais pas faire en fond, d'ailleurs.
Ça, c'est vraiment hyper important. C'est ce qu'on appelle la loi de puissance dans les portefeuilles. C'est vraiment peut-être un invest, l'invest qui allait à 24. Peut-être que demain, ça vaudra 240 ou même 2400. Et tu te diras, waouh. Ouais, j'aurais dû racheter, mais surtout c'est cet investissement qui va faire la perf de Jérémy sur le long terme et qui va tout exploser sur son passage. Tous les x2, les x3 qu'il y aura n'auront aucune importance par rapport à celui-là. Et c'est pour ça que les fonds professionnels ont toujours une énorme poche, ça peut aller jusqu'à 50%, qui gardent pour leur réinvestissement. Et il y en a qui vont jusqu'à l'IPO. Il y en a même pendant les. Bon, généralement, ils sortent après au bout des IPO, aux IPO, mais ils remettent à chaque tour et ils remettent des paquets. Enfin, c'est énorme ce qu'ils sont obligés de remettre pour protéger à chaque fois leur pourcentage de détention. Mais en tout cas, retenez bien ça. C'est très rare, honnêtement, qu'un business angel puisse faire ça. Mais c'est un bon learning.
Surtout les smart angels. Les smart angels comme moi, ou ceux qui s'identifient à moi, ça coûte très cher. Je pense qu'Hugo le mettait. Ça coûte très cher de garder ses positions sur une série A, sur une série B. Donc voilà, il faut plutôt l'anticiper.
Ça coûte hyper cher. Dernier point, c'est Finari. Finari, on va lever. C'est quoi ton analyse de la boîte? On en a pas, je précise qu'on n'a pas parlé avant. Je n'ai pas demandé à Jérémy de dire quoi que ce soit. Donc, il dit vraiment ce qu'il veut. Mais c'est quoi ton analyse de la boîte? Est-ce que c'est un truc que tu regarderais?
Comme tu dis, donc moi, ce n'est pas le type d'investissement que je fais parce que je n'ai pas la légitimité. Donc, je n'aurai pas énormément à t'apporter puisque tu ne vas pas monter une équipe sales dans les deux prochaines années. Tu vas peut-être faire un peu d'embedded finance, ça, on en reparlera. Donc là, j'aurais peut-être… Mais en fait, du coup, je suis dans une position plutôt d'outsider. Tu vois, donc le rapport de force, il est de ton côté. Moi, d'un point de vue extérieur, je pense que ce qui est vachement intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a 400 personnes sur un live d'un produit avec un CEO, avec un t-shirt Finari d'un produit. Il y a très peu de startups, tu vois, aujourd'hui dans l'écosystème qui sont capables d'avoir créé une communauté autour d'eux et ainsi de suite. Et je pense que dans ton business model, c'est clé aujourd'hui. Je pense que tu es à 1/10 de ton produit, de ce que tu as ta vision, et dans 10 ans, Finari sera complètement différent. Et donc, c'est une étape pour arriver à ça. Et je pense que le Web 3, le Web 2, beaucoup en parlent, mais aujourd'hui, les business communautaires vont être très forts. On voit beaucoup, par exemple, moi, je suis intéressé par les néobanques en Afrique. Il y a des néobanques très spécifiques en Afrique qui ont des croissances énormes parce que c'est communautaire. Donc, moi, je suis assez impressionné d'avoir réussi à faire une communauté autour d'un sujet très clair. Le deuxième, ou qui me correspond plus, tu vois, moi, j'ai jamais gagné d'argent. Je n'ai jamais, tu vois, eu d'argent quand je suis né ou autre. Donc, j'ai appris en gagnant et en travaillant. Et en fait, j'ai très peu été éduqué sur les différents sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime les petits investisseurs comme nous qui sont capables de faire des stratégies d'investissement plus complexes que les autres, de prendre plus de risques et d'avoir une approche un peu différente parce qu'on raisonne de manière nouvelle, tu vois. Ce que j'ai fait dans le Business Angel, ce que j'ai des potes qui le font dans l'immobilier, ils raisonnent complètement différemment que ce que pourraient conseiller des conseillers d'un patrimoine ou autre. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de créer une communauté et de le positionnement de Finari sur Empower, tu vois, ces nouveaux types d'investisseurs, parce que personne ne veut nous parler. Personne ne veut être nos conseillers de patrimoine quand on a moins de 200 000 euros en assets, quoi.
Et puis en plus, je pense que quand il parle un autre langage, tu vois. Tu vas voir un conseiller, tu lui dis j'ai 20 positions en startup, c'est 80% de mon patrimoine. Il va te prendre pour un fou et il ne va pas comprendre fondamentalement ce que tu
déjà,
fais.
Déjà, il va dire entreprise non cotée.
Ouais, voilà, il va dire titre non coté, PME, etc. Mais ok, super, merci pour ton feedback. On va passer aux questions. Juste avant, je vais essayer de repartager les slides. Alors, suspense, est-ce que je vais y arriver?
Mais après, tu vois, pour combler en attendant que le slide marche, je pense qu'il est hyper important, et tu en parlais un peu de ton ICO, je pense que c'est en fait quel lien tu auras en étant investisseur Finari. Tu vois, moi, c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Et comme je te dis, je l'investis pour avoir, tu vois, des relations avec les fondateurs. Et donc, en fait, c'est ok, mais qu'est-ce que je peux partager avec Mounir? Qu'est-ce que je peux partager avec Finari en étant investisseur? Et je pense que c'est aussi pour ça que tu auras un gros succès sur ta levée de fonds, parce que les gens, ok, eux, ils s'en foutent des 5 000 euros, mais ils s'en foutent aussi de récupérer les 10 000 demain. En fait, ils veulent vivre une expérience, ils veulent faire partie de quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, quoi.
Trop bien. D'ailleurs, si vous vous demandez comment vous pourrez aussi, à votre tour, nous aider, on fera des sessions sur ça. Et toi, c'est une expertise hyper spécifique, mais on n'a pas besoin d'avoir une expertise technique. Déjà, parler du produit, convaincre des gens, enfin, il y a plein de choses à faire. On va passer les slides rapidement et après, on va passer aux questions. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je n'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure, donc j'ai un peu peur de ce que je vais y trouver, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, premier appel, si vous êtes là et que vous ne connaissez toujours pas Finari, bon, je sais pas ce que vous avez fait cette dernière année, mais en tout cas, téléchargez l'application. Vous pouvez scanner le code. On est sur iOS, on est sur Android et on est évidemment sur web. On est gratuit et on vient de lancer une nouvelle mise à jour. Finari, on a levé, on a annoncé notre levée du 1 000 000 d'euros il y a quelques semaines. On va bientôt ouvrir notre levée, notre capital à vous, nos utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir devenir actionnaire. On a parlé tout à l'heure avec Jérémy. À ce jour, on a 12,5 millions d'euros qui ont été d'intérêts qui ont été enregistrés. Donc, c'est incroyable. On est assez soufflé par votre réponse. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir la vidéo de cette campagne sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous encourage fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que non seulement vous allez voir cette vidéo qui est géniale, mais en plus, vous allez voir tous les autres Finari Talk. Vous allez pouvoir voir ce Finari Talk en replay. On poste énormément de contenu sur l'investissement, mais aussi sur le produit. On vous dévoile un peu des fonctionnalités cachées. Donc, allez vous abonner à ça pour recevoir les notifications dès que les nouvelles vidéos sortent. On vous a mis l'adresse en dessous, mais vous tapez Finari sur YouTube, on va être partout. Pour rappel, le déroulement de la campagne, on est dans la phase, donc il faut regarder en haut à gauche, on est dans la phase où il faut enregistrer votre intérêt. Et ensuite, comment ça va se passer? On va bientôt annoncer la date, très bientôt. Les premiers à avoir accès, ce seront les Finari Plus. Ensuite, ce seront toutes les personnes qui seront enregistrées sur la page dédiée. On va mettre le lien dans le chat. Enfin, l'opportunité sera publique. Ça va se passer sur Crowdcube, donc le site de notre partenaire pour cette levée. Donc à ce moment-là, n'importe qui pourra investir. Ensuite, dès qu'on aura atteint notre cap, on fermera la campagne et ensuite, vous recevrez vos actions un peu plus longtemps. On va lever au moins 500 000 euros, mais on s'autorise à aller plus haut. Vu la demande, on va probablement aller plus haut. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. En tout cas, il n'y aura pas assez de place pour 12,5 millions d'euros pour le sujet qu'a évoqué Jérémy tout à l'heure, à savoir la dilution. Mais donc voilà, ce sera un jeu de vitesse. Ce sera premier arrivé, premier servi. On va tout faire pour qu'un maximum de gens puissent investir. On a réduit la taille des tickets déjà pour permettre aux petits investisseurs de rentrer. Le ticket max, ce sera 5 000 euros. Il y a plein de gens qui nous ont demandé à pouvoir investir 10, 20, 30 000 euros, 50 000 euros. On leur a dit non pour que vous puissiez tous investir à partir de 10 euros. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Vous allez obtenir les mêmes actions que les investisseurs institutionnels, donc que les VC, à partir de 10 euros. C'est du jamais vu en France et j'insiste là-dessus. C'est vraiment, on est les premiers en France à faire ça à cette échelle. Donc, enregistrez-vous, voici le lien. Vous allez sur finari.com, vous verrez aussi une bannière qui vous parle de ça. Et vous pouvez aussi aller voir notre communauté, qui est un lieu génial, on en parlait tout à l'heure avec Jérémy, parce qu'on y poste énormément de choses, notamment les avantages des actionnaires, parce qu'en étant actionnaire, vous achetez évidemment des actions, c'est normal, mais vous avez aussi des avantages, notamment ce superbe pull, mais aussi plein d'autres trucs. On va organiser des événements, il y aura des Finari Talks où vous pourrez venir physiquement, on va louer des endroits, ça va être vraiment incroyable, on va complètement changer d'échelle. Et ça, une partie de ces avantages-là seront réservés aux actionnaires. Donc si vous voulez voir un peu l'étendue de ce que vous pourrez avoir en fonction du montant que vous investissez, rendez-vous sur la communauté. Et je pense qu'on va passer aux questions. Et je vais prendre les questions, comme d'habitude, pour info, dans l'ordre des votes. Donc, si une question vous intéresse, ne la reposez pas, allez simplement voter pour. Et je la poserai à Jérémy. Première question de Johan. Est-ce qu'elle est la date pour la levée? Alors, Johan, je ne peux pas encore te donner la date. Ce n'est pas pour faire durer le suspense. Hein. Pour info, on a reçu des mails de gens qui me disaient « Vous faites trop monter la sauce, etc. » Moi, cette levée, ça fait 2 ans que j'y réfléchis tous les jours. Ça fait 6 mois que je bosse dessus concrètement. Et si je ne vous donne pas la date, c'est parce qu'on a encore des trucs à régler. Donc voilà, il faut nous faire confiance. Comme l'a dit Jérémy, c'est hyper, hyper, hyper long. La startup, c'est vraiment par vague. Des fois, il se passe des choses et des fois, il faut être patient. Donc, dites-vous que moi, ça fait 2 ans que j'attends cette journée. Donc, j'espère qu'on y sera bientôt et tu seras le premier informé. Donc voilà, Sébastien, comment et où trouver ces deals? Passes-tu par des plateformes type Caption, Dealroom, Kickstarter? Est-ce en direct avec les startups? Si en direct, comment déceler ces opportunités?
Ben, c'est une très bonne question, tu vois, Sébastien. La totalité de mes deals sont investis en direct. C'est-à-dire que c'est moi qui ai une relation avec le fondateur et qui vais investir dans la boîte. Je ne rentrerai pas dans quel type d'action tu peux avoir, sur du safe ou autre. Mais voilà, je suis toujours en direct là-dessus. Je n'ai jamais investi sur des plateformes. Donc là, tu as parlé beaucoup de plateformes un peu françaises. Il y a Angellist qui est aussi qui est énorme, réputé aux États-Unis avec beaucoup de deals. Voilà, moi, pourquoi ce choix? Parce que, comme je te disais, l'intérêt, c'est de créer des relations avec les startups et les fondateurs. Derrière, comment en fait j'ai ces deals? Donc, il doit y avoir 10-20% qui viennent du network aujourd'hui, des anciens de Spendesk, du bouche à oreille, des mecs qui me voient sur LinkedIn ou autre. Donc, ça, c'est quand même minoritaire. La majorité de mes deals, en fait, c'est des gens qui me contactent, mais pas pour m'avoir un investisseur, ou c'est des gens que moi, je vais contacter, mais pas directement pour leur dire que je suis investisseur. Donc, ça doit être 50-50 entre déjà en contact pour me dire, voilà, j'aimerais recruter un sales ou j'aimerais monter une équipe commerciale. Comment tu t'y prendrais? Quel CRM choisir? Tu vois, des sujets hyper spécifiques sur mon expertise à moi. Et au fil des discussions, ça se transforme en investissement. Et de l'autre côté, je fais beaucoup d'outreach. Donc, moi, je contacte proactivement beaucoup de startups, beaucoup de head of growth en startup, enfin de personnes dans les startups, pour leur dire, ben voilà, je kiffe ce que vous faites. Soit je suis utilisateur du produit, soit j'ai envie de le devenir. Et surtout, de leur expliquer de quoi j'ai envie de discuter. Donc, j'arrive avec une liste de questions assez précises et de leur dire, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas de la vente indirecte, quoi. Donc, voilà comment mon deal flow, il se fait aujourd'hui. Et là, tu vois, sur le projet africain où je pars de zéro, sur un nouveau continent, j'ai fait vraiment un vrai travail de recherche sur les potentiels fondateurs, les fondateurs existants, sur les boîtes intéressantes, sur les spaces. Et je passe un temps fou à creuser, à découvrir des boîtes et à contacter des inconnus sur LinkedIn ou sur WhatsApp et prendre des cafés qui ne mèneront à rien dans 50 ou 70% des cas.
Donc, il y a vraiment une logique d'investissement de ton temps dans ton network qui est finalement ton... Enfin, dans ton network ou dans des opportunités. Et ce qui est intéressant, c'est que tu le fais de façon indirecte. Tu apportes déjà quelque chose avant de demander quelque chose.
Ça, ouais, c'est... je comprends la question des plateformes ou autres, mais ça revient, tu vois, sur un peu le débat qu'on disait. Comme je ne le fais pas de manière financière et pour des opportunités financières, ben, ce n'est pas logique pour moi de mettre un ticket dans une boîte que je ne connaîtrais pas aux US pré-IPO. Je ne vois pas l'intérêt, quoi.
Tu veux vraiment avoir un lien avec la personne.
Exactement.
Trop bien. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, tu as parlé d'un truc, des fondateurs, notamment en Afrique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bons fondateurs attirent les bons fondateurs et les bons VC attirent les bons VC. Et donc, en fait, si on rencontre un bon fondateur, on va rencontrer ses amis qui sont tous des bons fondateurs. Parce que les fondateurs ont vraiment cette obsession de s'entourer des gens qui sont meilleurs qu'eux, etc. Et donc, ça peut aller très vite. Donc, si vous n'avez pas de relation en startup, moi, je ne viens pas de Paris, j'avais aucune relation en tech. Comme Jérémy, j'ai commencé sur un poste qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, évidemment. C'est possible, ça prend du temps. Mais en tout cas, si vous voulez le faire, je pense que c'est l'industrie où on peut partir de zéro et faire des trucs incroyables très, très vite en plus.
Et l'industrie est très jeune.
Elle est hyper
jeune.
Il y a très
peu d'experts aujourd'hui.
Exactement. Et en plus, si vous arrivez avec une expertise sur un sujet, je ne sais pas, le Web3, ça n'existait pas il y a un an. Enfin, il y a tout à inventer. Vous pouvez vraiment apporter quelque chose. Mais en tout cas, j'aime bien ton idée d'apporter quelque chose à la table avant tout. Alors, JM veut savoir quelle somme tu investis tous les mois sur chacune des startups et est-ce que tu as un budget mensuel alloué à ça?
Ouais, j'ai essayé. J'avais une enveloppe de plutôt globale, tu vois, aux alentours de 80 000 euros à déployer sur l'année. Et donc, ouais, c'est plutôt entre 5 et 8 000 euros par mois. Après, j'investis de trois manières différentes, quoi. Soit moi en perso avec mon compte courant, avec mes épargnes, soit avec ma holding. Donc, comme je fais un peu de freelance à côté de Presta, j'ai de la trésorerie sur ma holding.
Ça va intéresser du monde, je pense.
Ouais, et le dernier, c'est des fois, on a fait des groupes deals à plusieurs. Okay. En fait, il y avait des tickets qui étaient un peu gros pour rentrer. Et donc, en fait, on s'est groupé à deux, trois anciennes Spendesk et on lui a dit, voilà, la Spendesk Mafia met un ticket dans ta boîte. Donc voilà, c'est les trois types d'investissements que je fais et le budget que j'avais prévisionné. Je ne l'avais pas vu en termes par mois, sinon ça ferait peur, tu vois, de se dire 8 000 par mois en startup. Je l'avais plutôt vu sur un budget annuel aux alentours de 70-80 000 euros à déployer sur une vingtaine de deals, quoi.
De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux passer 6 mois sans voir un bon deal et après, tu peux en voir 4 dans la même semaine qui sont incroyables.
C'est ça le problème.
Et donc, il faut vraiment être opportuniste. Donc, il ne faut pas se forcer à investir et il faut aussi… Enfin, Jérémy, tu passes ton temps à dire non, en fait, aussi. Donc,
c'est un peu frustrant pour certains hein, qui m'ont envoyé des mails. Mais je pense que c'est ça la vraie difficulté. On le dit souvent un peu dans le recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ben là, vous allez mettre votre investissement dans quelque chose de plus risqué, un des plus risqués au monde. Si vous doutez de quoi que ce soit, n'y allez pas, quoi. N'y allez pas. Donc, et souvent, on juge un investisseur, même si je le market et tout, sur le nombre d'investissements que j'ai fait. À la fin, on retiendra un seul de mes investissements. On dira, ouais, c'était le premier à investir dans Swan, tu vois, par exemple. Donc, le nombre est vraiment pas important. Je voulais mettre en exergue plutôt pour compenser le côté de mettre tous les œufs dans le même panier. Mais c'est plutôt la qualité de vos deals qui vont être importants que le volume.
Trop bien. Maxime veut savoir quelle structure légale tu utilises pour investir. Tu as un peu parlé de ta holding, mais comment tu structures ça?
Donc, moi, j'ai fait beaucoup de deals en perso, qui est le plus simple, en fait.
Donc, pas de structure légale, en fait. C'est toi qui détermine.
Pas de structure légale aujourd'hui. C'est Jérémy Goyot avec son compte courant qui va envoyer un chèque de 7 000 euros. Le premier était bloqué par la banque, mais voilà, tu envoies un chèque et du coup, c'est les parts soit sur du safe, soit sur des actions vont être à mon nom. Soit j'investis par ma holding. Donc moi, j'ai une SAS qui me permet de faire de l'investissement. Là-dessus, je pense qu'il y a des plus gros experts que moi pour expliquer le rôle des holdings et pourquoi l'utilisation. Donc du coup, c'est ma holding qui possède les actions de la société et je suis président de cette holding. Et le dernier, on avait monté une SCI d'investissement à trois, donc une SCI assez simple avec une répartition, chacun a mis 10 000 et ça faisait la SCI qui avait pris des parts d'une société. C'est assez compliqué dans certains pays d'investir, Maxime. Donc, par exemple, sur l'Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué. Et les États-Unis, bon, là, on a enregistré, ça finira sur YouTube, donc on ne pourra pas donner tous les conseils. Contactez-moi si vous avez des opportunités d'investir aux États-Unis. Mais il faut avoir un certain level financier, il faut être accredited investor, comme ils disent. Donc, dans certains pays, c'est très difficile d'investir.
Exactement. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, les États-Unis, c'est le plus gros marché tech au monde. On investit beaucoup sur des safes, qui sont des instruments... On a copié en France sous un autre nom qui s'appelle qui est le BSR. Mais enfin, c'est vraiment, je sais pas si la. J'ai rencontré un business angel qui est très connu d'ailleurs, qui disait que lui, il avait tout en direct et qu'il s'en fichait de la fiscalité parce que pour lui, c'est s'il payait beaucoup d'impôts, de toute façon, c'est quelque part qu'il aurait gagné énormément. Donc, je sais, il y a plein d'optimisations fiscales, je pense, à faire. Mais encore une fois, comme l'a dit Jérémy, ça devrait pas être le moteur. Après, je pense que ça vaut aussi le coup d'aller voir un fiscaliste et de lui demander. C'est quoi le meilleur schéma pour...
Stormes, tu vois, c'est de quoi on discute. Tu vois, si on parle de 10, 15 000 euros économisés sur des rentas, enfin, comme on dit, c'est des rentas assez folles, ça ne sert à rien. Si vous êtes commencé à avoir beaucoup d'argent et que c'est assez significatif, c'est là où il faut chercher l'optimisation. Mais tu vois, moi, sur 70 000 euros investis, il y avait assez de complexité à gérer pour me rajouter la complexité de si je gagne de l'argent, comment je ferais. Je pense que peut-être que je me boufferai les doigts dans 10 ans.
Peut-être.
Mais j'apprendrai, mais il faut aussi... le faire et on sait que de toute façon il y aura de la fiscalité et c'est quand même un pourcentage des gains, donc on gagnera forcément de l'argent.
Alors il y a une histoire qui est marrante, une anecdote qui est marrante. Il y a quelqu'un que je nommerai pas mais que je salue qui a investi via son PEA dans Doctolib. Donc voilà, donc on peut aussi faire des choix d'exception, il économisera beaucoup d'impôts, mais il faut quand même avoir...
Il a dû avoir des galères de taille de PEA au bout d'un moment, quoi.
Ben non, parce qu'en fait, c'est l'apport, tu vois, qui compte. Okay, okay. Mais aujourd'hui, son PEA, il pèse. C'est ce que je lui disais, je pense que c'est un des plus gros PEA avec du non-coté dedans en France. Mais il l'a fait parce qu'il avait... Enfin, c'est quelqu'un qui est très sophistiqué dans sa démarche d'investissement.
Après, ouais, de toute façon, si on parle d'optimisation, ce sera que des boîtes françaises.
Que des boîtes françaises, évidemment.
Que des boîtes françaises avec certains types de structures légales de côté de la boîte, en plus. Fait.
Et ça ne marche pas pour les BSA. Enfin, c'est... Exactement. Donc, c'est très limitant. Mais en tout cas, je pense que le... Enfin,
c'est intéressant à regarder le PEA en termes d'investissement. Investir via son PEA, c'est quelque chose à regarder sur certains.
Ouais, c'est plus simple. Après, si vous voulez faire les boîtes américaines, des safes, des BSA, ce sera probablement une holding. Mais
poser des questions aux fondateurs aussi, parce qu'en fait, les fondateurs ont les réponses parfois, parce qu'ils ont 5-6 BA et ils ont trouvé les réponses. Ils ont surtout payé un avocat une fortune pour répondre à ces questions-là. Donc, soyez pas timide quand vous ne savez pas poser la question. Et moi, je sais qu'on l'avait fait sur Indeed, de dire « est-ce que je peux investir via mon PEA ?» Et le fondateur nous avait répondu, nous avait demandé, il nous avait donné des certificats pour le faire.
Bien sûr, parce qu'il vérifie avant. Alors, donc Tristan veut savoir, 5 000 $ représenteraient quel pourcentage de la boîte? Donc, j'imagine que tu parles de notre levée. On n'a pas encore divulgué la valo, donc je ne peux pas te donner cette information. Romain, en effet, petite question sur la fiscalité. Est-il possible de transférer les titres d'une start-up dans l'enveloppe d'un PEA?
Tu vois, Mounir, si on revient sur la question de Tristan, je pense qu'il faut arrêter de parler de pourcentage, en fait. Parce que ça veut tout et rien dire, en fait. D'avoir zéro quelque chose, même quand tu es employé ou autre. Ce qui est vachement important, c'est de regarder la valeur de tes actions aujourd'hui et la valeur de tes actions demain. Donc, le prix de l'action.
Donc c'est littéralement comme des actions, des vraies actions, comme une boîte.
Exactement. Donc, plutôt de regarder le pourcentage d'une boîte qui ne veut rien dire, regarde, en fait, avec ces 5 000 euros, combien tu auras d'actions, à quel prix, et demande au fondateur des simulations sur une série A, sur une série B, pour voir le potentiel, mais ne rentrons pas dans ces pourcentages. Ça marche pour les employés qui négocient des écoutiers en startup, et pour nous, les investisseurs, ça ne sert à rien, les pourcentages, c'est très dur à suivre dans le temps.
Et même pour info, le pourcentage, même pour les employés, c'est assez rapidement plus utilisé, parce qu'en fait, ça représente tellement peu que ce n'est pas une bonne mesure. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas rapporter beaucoup d'argent sur le long terme, mais effectivement, je pense qu'il faut plutôt regarder la valeur de l'action aujourd'hui, combien elle pourrait valoir demain, combien vous en avez et combien ça pourrait vous rapporter in fine. Alors, pour revenir à la question de Romain, est-ce qu'on peut transférer les titres d'une startup dans l'enveloppe d'un PEA? Alors, je vais te répondre, je pense que ce n'est pas possible, il faut le faire au moment de l'investissement. Après, c'est un peu trop tard.
Il y a la somme, en fait, le PEA doit être alimenté avant que l'investissement soit fait.
Exactement. Donc, il faut que ça vienne littéralement du PEA.
Que l'argent était sur le PEA avant. Ça paraît très dur, mais ça, des fiscalistes donneront la réponse. Mais
je pense que c'est pas possible.
Je pense que tu n'es pas loin.
Alors, Bertrand veut savoir quelle plateforme possible pour investir dans des startups à part Crowdcube. Est-ce qu'il y en a que tu as vu, dont on t'a parlé, qui te semble intéressante? Tu as cité AngelList aux US. Je précise qu'il faut être investisseur accrédité, donc il faut avoir un certain patrimoine.
Ouais, donc non. Moi, je dirais plutôt que c'est difficile les plateformes, mais je pense qu'il y a des groupes WhatsApp ou des groupes de gens, des communautés qui se regroupent. Et je suis sûr que certains, sur les 400 personnes, là, ils sont. Moi, je te dirais plutôt, Bertrand, de regarder des groupes ou des chaînes de gens pour plutôt suivre avec des potes plutôt que chercher des plateformes. J'ai peur que si tu n'aies pas les opportunités les plus intéressantes. Donc, soit c'est des produits que tu es utilisateur et donc tu reçois des notifications pour participer à la levée de fonds. Customer.io l'a fait ou Finari le fait. Soit c'est des potes à toi où vous pouvez vous partager des deals et rentrer à plusieurs.
Top. Alors, je saute quelques questions pour avoir un peu avoir une chance de voir les questions plus bas. Intéressant. Hugo demande, est-ce qu'il y a déjà eu des échecs et des exits parmi tes boîtes?
Des échecs, je sais pas, on va prendre la citation de Kerviel, tu vois, tant que c'est pas vendu. Non, des échecs, pas encore.
Je pense qu'il y a pas de boîte qui a fait faillite.
Je pense que des sociétés qui n'ont pas fait faillite, il y a des sociétés en très mal état. Okay. Il y a des sociétés où il n'y a plus de CTO, il y a des sociétés où, okay. où il y a pas le nombre de clients n'a pas bougé depuis 12 mois. Ouais, il y a des sociétés où c'est un peu compliqué. Et des exits, non, comme on l'a dit Hugo, mais j'ai eu des propositions. Donc, j'ai reçu un mail du CEO que l'investisseur me proposait de racheter mes actions. Mais c'était plutôt des investisseurs existants, mais la boîte n'a pas eu d'exit là-dessus. C'est ce qu'on appelle plutôt le secondaire. Donc, c'est des opportunités de vendre tes actions dans la vie de la boîte. Après, comme on dit, c'est aussi patient. Hein. Tu vois, mon premier investissement est en janvier 2021. J'ai le temps encore d'en avoir un. Je pense que ça sera… une de mes plus gros investissements qui risque de où on va me sortir. Tu vois, un high touch qui vaudra 1,2 milliard, je pense, dans 6-8 mois, ils vont me sortir au bout d'un moment.
Pour info, pourquoi les fonds sortent les petits BA, les smart angels? C'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est juste parce qu'au bout d'un moment, il n'y a que 100% dans une cap table et que il faut bien les fondateurs vont dire, moi, je veux plus me diluer, donc maintenant, vous rachetez des gens si vous voulez plus. Et donc, ils sont obligés d'aller racheter des parts. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, effectivement, les business angels ne montent jamais jusqu'à l'IPO parce qu'ils se font sortir avant. Ça arrive quand même.
À la phase d'avant, ils te regroupent. Tu vois, ils te regroupent. Et là, tu sais que c'est le dernier. Quoi.
Là, ils te regroupent pour mieux t'aligner. Mais dites-vous que c'est une super bonne. Enfin, c'est une bonne nouvelle quand on vous sort. C'est que vous allez faire une super belle opération.
C'est de la liquidité. Et tu rachètes quand ça rentre en bourse. Et puis voilà.
Exactement. Donc, c'est comme disait le baron de Rothschild, on ne devient pas riche en vendant le top. Quoi. On vend à 80% parce que voilà, c'est déjà énorme.
Donc, et après, ce que tu peux voir aussi, c'est que ta relation avec les boîtes diminue. Tu vois, le CEO devient de plus en plus coté. Wow, donc, en fait, tu deviens vraiment passif pour la boîte. Tu vois, demain, une boîte qui se rapprocherait de la série B, je suis moins utile pour eux qu'une boîte qui commence aujourd'hui aussi. Donc, c'est aussi logique que tu es moins utilisé. Donc, T'as eu ton magnifique multiple, il est temps de sortir.
Et faut pas oublier que il y a quand même un truc qui est magnifique, c'est que quand tu investis en startup, fondamentalement, tu peux ne rien faire et faire un multiple de dingue. C'est d'autres gens qui travaillent pour toi. Donc je pense que ça, bon évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais faut pas oublier que c'est quand même d'autres gens qui travaillent énormément. Donc voilà. Il y a une question que je trouve très intéressante de Mathieu, c'est est-ce que tu as des red flags, donc des choses qui te font tiquer où tu dis ça, ce deal, j'y vais pas.
Ouais, j'ai fait un post LinkedIn, je crois, hier. C'était suite à un call que j'ai eu. En fait, c'était une phrase. Tu vois, il sait ce qu'il ne sait pas. Tu vois. Et en fait, il y a la plus grosse connerie des fondateurs, c'est qu'ils pensent tout savoir. Ils pensent que c'est facile de recruter un senior back-end à Paris. Ils pensent que c'est facile de faire 10 millions de revenus. Ils pensent qu'il va aller aux US très facilement en Q2. Tu vois, ce type d'entrepreneur qui ne remet jamais en question son plan et qui pense que tout va se passer et qu'il a rien à apprendre de personne, en fait. Ben ça, c'est vraiment le plus gros red flag que j'ai. Les gens qui ne sont pas conscients de la difficulté. Tu vois, il y a souvent des métaphores entre l'amateur du football et le professionnel du football. L'amateur, il rentre sur le match, sur le terrain, il ne sait absolument pas s'il va gagner ou il va perdre. Tu vois. Le professionnel, il rentre sur le terrain, il sait qu'il va perdre, mais il sait comment il va gagner. Tu vois. Ben, c'est un peu pareil avec les fondateurs. C'est de se dire, mais est-ce qu'en fait, le gars en face de toi, il sait qu'il se lance dans le pire truc au monde, tu vois. Il va pas dormir pendant 6 ans, il va avoir des nuits blanches, il va avoir des licenciements, il va avoir des conflits, il va avoir des churns. Et en fait, des fois, tu te retrouves face à des gens qui ne se rendent pas compte de ça, tu vois. Et toi qui l'as vécu en tant qu'employé pendant 6 ans, ça fait peur, tu vois, d'avoir le fondateur qui n'est pas conscient de ça.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est bien de... C'est bien, on dit souvent, il faut savoir ce qu'on, quand on fait une boîte. D'ailleurs, chez Spendesk, vous avez certainement fait la liste des choses que vous ne ferez jamais, que vous ne ferez pas. On n'adressera jamais ce marché. Donc, c'est bien en tant qu'investisseur de dire, bah, voilà, moi, je n'irai jamais investir dans une boîte où le fondateur ne se remet jamais en question parce qu'effectivement, bah, je pense que chez Spendesk, ouais, ça devait être intéressant. Le marché a dû changer 3 fois pendant 10 fois. Donc, vous avez dû vous adapter. Vous avez peut-être gardé un cap, mais en tout cas, on s'adapte tout le temps parce que demain, enfin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Effectivement.
Tu as un deuxième red flag aussi, les boîtes qui ne donnent pas aux employés. C'est de plus en plus rare, mais il y en a encore aujourd'hui où les employés sont. On te dit, on donne des actions à tout le monde, mais ils ont des miettes. Quoi. C'est-à-dire que si la boîte vaut 200 millions, qui serait une des plus belles séries B tu vois, de l'écosystème, il n'y a aucun employé millionnaire. Je trouve ça complètement absurde. Tu vois. Je trouve complètement absurde qu'il n'y ait pas de redistribution de valeur et ça en dit long sur le potentiel culture de ça. Et après, il y a des gens aussi où je pense que ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'entre eux et moi, ça passe pas. Fine, tu vois, ça sera peut-être une très belle boîte, mais on n'a rien à se dire. Je vais pas investir dans des mecs que j'ai pas envie de partir en voyage avec eux ou de prendre des bières avec eux, quoi.
Trop cool, t'as raison. Alexandre Darbois, que je salue, demande comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui? Quelles sont tes sources de revenus en attendant la licorne qui arrivera en 2025?
Ouais, ouais. Bon, déjà, j'ai déjà fait une première licorne, donc ça m'a aidé à voir la vie différemment. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'ai 2 sociétés. Donc, j'ai une société de recrutement où on accompagne la majorité des plus jeunes startups, ça s'appelle grosstalent.org. On va aider les startups dans le recrutement sur du conseil. Et de l'autre côté, on va faire du mentoring de profils growth de l'écosystème. Et ça, c'est une société, tu vois, où on va accompagner 30 de boîtes par quarter. Sur du freelance basique sans récurrent, quoi, des missions de conseil. Et de l'autre côté, je suis advisor de startup. Donc, je suis payé chaque mois par des entreprises pour les aider à faire le moins de conneries possible. Et donc, sur les sujets marketing, growth et sales. Donc, j'ai 3 startups que je suis assez longtemps, tu vois, sur 3 à 6 mois minimum, même plus, tu vois, et avec une petite source de revenus qui me permet du coup de garder mon salaire que j'avais chez Spendesk et avoir un peu plus de temps pour travailler. Mais je dois faire quand même 2 jours sur Grosstalent, 1 jour d'advisory et 2 jours, 1 jour plutôt off sur mes sujets et mon personal brand et 1 jour sur mes stratégies d'investissement et là qui vont se transformer. Et demain, sur mon fonds d'investissement, je vais avoir un carry. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas être payé comme les fonds d'investissement classiques parce que je n'ai pas des millions sous assets. Donc, ça serait absurde de prendre 1% de ça. Mais par contre, je vais prendre 20 à 30% du ROI de ce fonds-là. Et donc, mon temps sera… C'est un investissement que je vais faire sur le futur. Mais voilà, ça sera mon nouvelle source de revenus. Peut-être dans 5-6 ans, mon fonds d'investissement me rapportera une somme assez significative.
Ce sera quoi le ticket minimum pour rentrer dans ton fonds?
Donc, le premier, on fait un petit fonds assez select. Ça sera 100 000 euros. On pourra faire des exceptions.
S'il y a des gens intéressés, vous pouvez vous signaler. Mais bon.
Mais au-delà de ça, c'est comme on dit, c'est pas l'argent qui est intéressant. Si vous êtes passionné par l'Afrique et vous vraiment pensez que ça va devenir une place technologique dans le futur et que les plus grosses startups tech seront en Afrique, contactez-moi en tout cas. Mais voilà, on va monter un petit fonds pour déjà se mettre en marche et on verra par la suite si c'est kiffant à faire, si on a le résultat qu'on veut. Et voilà, il y a quand même des inconnus.
Trop bien. D'ailleurs, il y a Mohamed qui est intéressé. Donc, on va mettre l'email de Jérémy, si tu le veux bien, et on pourra te contacter. Ouais. Ça va faire 1h08, donc je vais encore prendre 2 questions au hasard. Allez, je prends. Alors, je prends vraiment. Alors, Boris, qui est médecin, dit « Comment se vendre aux entrepreneurs quand on n'a aucune compétence dans le domaine de la tech ?»
Bah, tu vois, je pense qu'il aurait pu rentrer dans Doctolib.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, Boris, c'est ça ta compétence. Parce que nous, on ne comprend rien aux médecins, on ne comprend pas comment vous travaillez.
Je pense que, et en fait, le monde de la tech ne comprend rien au monde de la vie réelle. Tu vois.
Oui.
Donc moi, le premier conseil que j'aurais, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui aimeraient vendre à des indépendants, qui aimeraient vendre à des docteurs, qui aimeraient vendre à des CSP+. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça. Donc, voilà, en tant que médecin, vous n'êtes pas que médecin, en fait. Vous êtes d'autres personnes. Et en fait, la tech aimerait échanger avec vous. Donc, il y a aussi un monde qui, moi, m'est complètement fermé. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qui est la medtech. Il y a des boîtes exceptionnelles qui se font plutôt à Boston qu'à Paris. Mais même en France, je trouve qu'il y a des boîtes exceptionnelles aujourd'hui dans la santé où aujourd'hui, j'arriverai absolument jamais à rentrer. Donc, voilà, je pense qu'il faut raisonner. J'ai oublié le prénom du
personnage.
Boris, je pense que tu as un avantage concurrentiel parce que tu as été beaucoup plus studieux que moi à l'école et aujourd'hui, tu as un job qui est beaucoup plus important et donc autant l'utiliser, quoi. Donc, je pense que tu as des opportunités et qu'il faut raisonner plutôt différemment.
Trop bien. Il y a une dernière question de Thierry que je trouve super. C'est dans 80... t'as dit que dans 95% des cas, les startups allaient à zéro. Ça veut aussi dire que dans 95% des cas, les BSPCE ne servent à rien. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête quand tu as commencé chez Spendesk?
Non, on pensait que ça valait rien. On pensait que ça valait rien.
Il faut dire qu'il y a 6 ans, les gens avaient beaucoup moins conscience de ce qu'étaient les BSPCE.
J'ai signé un papier, il y avait 6000 BSPCE. Je me suis dit, fine, mais ça ne va pas payer mon loyer, tu vois.
Ouais.
Et il y avait très peu aussi de recul de millionnaires dans la tech ou autre.
À Paris, c'était hyper rare.
Donc, je pense que peut-être que dans 10 ans, beaucoup des BSPCE, 95% des BSPCE n'auront servi à rien. Et je dis toujours aux gens, faites attention sur le cash. Le cash est aussi important, vous permet de faire d'autres choses. Donc faites attention sur les BSPCE. Ce qu'il faut faire attention, c'est que, un potentiel, ça ne vaudra rien. Mais aujourd'hui, si on est dans une belle startup, on peut les vendre en secondaire assez souvent. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'attendre aussi l'IPO dans 10 ans pour gagner de l'argent. On peut, dès la série A, dès la série B de Finari, les employés de Finari pourront vendre leurs actions.
Personne ne l'a fait, je précise.
Ou autre. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait dans l'écosystème où dès la série A, dès la série B de Spendesk, on a eu l'opportunité de vendre nos actions. Et donc, des BSPCE qui ne valaient rien, valaient quelque chose. Et je pense, d'un point de vue management, ça a été la première fois où on nous a expliqué qu'on était assis sur une mine d'or et qu'il fallait rester et faire fructifier cette mine d'or. Ça nous a fait réaliser que nos BSPCE étaient précieux. Et c'est pour ça qu'on est tous restés entre 5 et 6 ans sur les premiers employés. Et
trop bien. Trop bien. Moi, ce que je dis souvent aux employés, c'est une phrase que j'ai piquée à un fondateur qui a eu beaucoup de succès. C'est votre salaire, ça paye votre loyer, votre BSPCE, ça achète votre appartement. Ou ça achète même les 15 appartements que vous voulez avoir autour du monde si vous êtes le premier employé d'Airbnb. Et c'est vraiment ça. C'est les BSPCE, financièrement, ça va changer votre vie si ça se passe bien. Après, comme l'a dit Jérémy, statistiquement, il y a plus de chances que ça se passe mal ou pas du tout. Donc, n'oubliez pas la part salaire. Mais si vous venez en startup…
Et d'où l'intérêt aussi de prendre beaucoup de BSPCE, comme tu dis, Mounir.
Ouais, exactement.
Parce qu'en fait, il y a un énorme risque. Donc, il faut que ça paye fort derrière.
Exactement.
Et donc, prenez un énorme risque sur les BSPCE. Signez pas 3 ou 4 000 euros de BSPCE. Quoi. Allez chercher beaucoup plus.
Et nous, d'ailleurs, chez Finari, on fait toujours deux offres. On fait une offre avec plus de BSPCE, moins de cash et l'inverse. Et pour l'instant, 90% des gens, 95% des gens ont pris l'offre plus de BSPCE parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, ils étaient all-in. Donc, c'est pas 5 000 euros de salaire.
Sur leur early stage, c'est facile. Sur leur early stage, c'est all-in.
Exactement. Bon, Jérémy, ça fait 1h12 qu'on parle. On pourrait continuer. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Désolé, hein, c'est pas du tout contre vous. On n'a juste pas eu le temps. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux encore partager avec les utilisateurs sur l'invest, startup ou sur autre chose?
Non, moi je pense, et c'était hyper intéressant d'avoir autant de personnes et autant de milieux différents, c'est garder en tête qu'aujourd'hui, tout le monde en parle des startups, mais c'est comme tout, il faut vraiment se faire une expertise, il faut vraiment creuser en fait. Il y a des superbes opportunités et pour moi, les superbes opportunités, elles viendront des relations que vous aurez construites avec les gens, mais elles ne viendront pas d'une plateforme, d'une opportunité qui est accessible à tout le monde. Donc, si vous voulez avoir des très bonnes opportunités en startup, rencontrer des gens, échanger, comprenez les business models, comprenez les fondateurs et là, vous aurez accès à des opportunités et je suis presque sûr que vous avez peut-être aussi d'autres opportunités. Moi, j'ai choisi de commencer dans l'investissement avec les startups, mais posez-vous la question, en fait, où c'est que vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres? Est-ce que c'est les startups ou est-ce que c'est un autre type d'investissement? Et après, on se refait un événement Mounir dans un an quand j'aurai eu ma première exit en tant que business angel et quand j'aurai déployé tout mon fonds.
Tu nous raconteras ça. Je pense que merci déjà d'avoir participé, c'est hyper cool. Il y a un truc qui me frappe positivement chez toi, c'est ton ouverture d'esprit. Tu es hyper curieux et tu sais aussi ce que tu sais pas, tu sais ce que tu ne sais pas faire. Et Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir en startup. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir en général dans la vie, mais encore plus en startup. La vérité, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont peut-être 20 ans, qui sont en train de monter le prochain Coinbase au coin de la rue. Ils savent peut-être pas s'exprimer correctement. Ils ont peut-être, c'est peut-être pas des grands orateurs, mais en fait, c'est pas ça qui compte. Donc, ne regardez pas l'enveloppe. Regardez plutôt le contenant. Regardez plutôt le contenu, pas le contenant. Et on ira très loin. Je pense que la tech va manger le monde positivement. Tout le monde va y gagner. Donc, c'est une opportunité générationnelle. Ne la ratez pas. Et par contre, allez-y doucement. Ça reste extrêmement risqué. Je pense qu'on l'a beaucoup dit ce soir. Comme l'a dit, tout le monde n'a pas les skills de Jérémy. Tout le monde n'a pas son réseau. Donc, allez-y doucement. Prenez le temps et acceptez aussi qu'il va falloir apprendre un petit peu avant d'y aller à fond.
Par étapes.
Par étapes, exactement. Bah, vous pouvez dire déjà merci à Jérémy dans le chat. Je vois qu'il y en a plein. On t'attend à Dakar, dit Mohamed. Voilà, c'est bon. Je pense que tu es invité officiellement. Hein. C'est bon. Et merci à toute l'équipe, c'est-à-dire Romain qui est assis derrière l'ordinateur là, qui a organisé ça avec moi. Je vous donne rendez-vous bah, très bientôt déjà pour la levée qui va être imminente. Un Finary Talk dans un mois qui va être exceptionnel. Et là, je suis vraiment très fier parce que on avait couvert pas mal de sujets et on s'est dit comment on peut un peu changer d'étape, comment on peut passer à un cap. Et donc, vous allez voir, c'est un sujet assez inattendu. C'est pas du tout financier, mais c'est sur l'investissement. Donc, on va vous révéler ça bientôt. Jérémy, écoute, merci pour ton temps. Je te dis très bonne soirée. À très vite. Et je vous dis tous aussi bonne soirée. Ciao, bye bye.
Et voilà, cet épisode de Finary Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses ? Rejoignez-nous sur notre communauté community.finary.com. Et pour rejoindre Finary, rendez-vous sur les stores et sur finary.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finary Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finary Plus. Alors à bientôt !